Littérature Audio a le plaisir de vous présenter une comédie en 5 actes de Molière, Les femmes savantes.
Les personnages: Chrysale, bon bourgeois. Philaminte, femme de Chrysale. Armande, Henriette, fille de Chrysale et de Philaminte. Ariste, frère de Chrysale. Bélise, sœur de Chrysale. Clitandre, amant d'Henriette. Trissotin, bel esprit. Vadius, savant. Martine, servante de cuisine. Lépine, laquais de Trissotin. Julien, valet de Vadius, le notaire. La scène est à Paris.
Acte 1.
Quoi ? Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur ? Et de vous marier, vous osez faire fête ? Ce vulgaire dessein peut vous monter en tête.
Oui, ma sœur.
Ah, ce oui, se peut-il supporter ? Et sans un mal de cœur, saurait-on l'écouter ?
Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur ?
Ah, mon Dieu, fille !
Comment ?
Ah, fille, vous dis-je ! Ne concevez-vous point ce que, dès qu'on l'entend, un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant ? De quelle étrange image on est par lui blessé ? Sur quelle sale vue il traîne la pensée ? N'en frissonnez-vous point ? Et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot résoudre votre cœur ?
Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage. Et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse frissonner.
De tels attachements, ô ciel, sont pour vous plaire.
Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi, par le titre d'époux, un homme qui vous aime et soit aimé de vous ? Et de cette union de tendresse suivie, se faire les douceurs d'une innocente vie ? Ce nœud bien assorti n'a-t-il pas des appâts ?
Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas ! Que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'une idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. À de plus hauts objets, élevez vos désirs. Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs. Et traitant de mépris l'essence et la matière, à l'esprit, comme nous, donnez-vous tout entière. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux, que du nom de savante on honore en tout lieu. Tâchez, ainsi que moi, de vous montrer sa fille. Aspirez aux clartés qui sont dans la famille, et vous rendez sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Loin d'être aux lois d'un homme en esclave asservi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie qui nous monte au-dessus de tout le genre humain et donne à la raison l'empire souverain, soumettant à ses lois la partie animale dont l'appétit grossier aux bêtes nous ravale. Ce sont là les beaux feux, les doux attachements qui doivent de la vie occuper les moments. Et les soins où je vois tant de femmes sensibles me paraissent aux yeux des pauvretés horribles.
Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant, pour différents emplois nous fabrique en naissant, et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations où montent des savants les spéculations, le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre, et dans les petits soins son faible se resserre. Ne troublons point du ciel les justes règlements, et de nos deux instincts suivons les mouvements. Habité par l'essor d'un grand et beau génie, les hautes régions de la philosophie. tandis que mon esprit, se tenant ici-bas, goûtera de l'hymen et terrestres appâts. Ainsi, dans nos desseins, l'une à l'autre contraire, nous saurons toutes deux imiter notre mère. Vous, du côté de l'âme et des nobles désirs, moi, du côté des sens et des grossiers plaisirs. Vous, aux productions d'esprit et de lumière, moi, dans celles, ma sœur, qui sont de la matière.
Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler. Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle, ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle.
Mais vous ne seriez pas ce dont vous vous vantez, si ma mère n'eût eu que de ses beaux côtés. Eh bien, vous prend ma sœur que son noble génie n'est pas vaqué toujours à la philosophie. De grâce, souffrez-moi par un peu de bonté des bassesses à qui vous devez la clarté. Et ne supprimez point, voulant qu'on vous seconde, quelque petit savant qui veut venir au monde.
Je vois que votre esprit ne peut être guéri du fol entêtement de vous faire un mari. Mais sachons, s'il vous plaît, qui vous songez à prendre. Votre visée, au moins, n'est pas mise à clitandre.
Et par quelle raison n'y serait-elle pas? Manque-t-il de mérite? Est-ce un choix qui soit bas?
Non, mais c'est un dessein qui serait malhonnête que de vouloir d'une autre enlever la conquête. Et ce n'est pas un fait dans le monde ignoré que clitandre est pour moi hautement soupiré.
Oui, mais tous ces soupirs chez vous sont choses vaines, et vous ne tombez point aux bassesses humaines. Votre esprit à l'hymen renonce pour toujours, et la philosophie à toutes vos amours. Ainsi, n'ayant au cœur nul dessein pour clitandre, que vous importe-t-il qu'on y puisse prétendre?
Cet empire que tient la raison sur les sens ne fait pas renoncer aux douceurs des encens. Et l'on peut, pour époux, refuser un mérite que pour adorateur on veut bien à sa suite.
Je n'ai pas empêché qu'à vos perfections il n'ait continué ses adorations, et je n'ai fait que prendre au refus de votre âme ce qui est venu m'offrir l'hommage de sa flamme.
Mais à l'offre des vœux d'un amant dépité, trouvez-vous, je vous prie, entière sûreté? Croyez-vous pour vos yeux sa passion bien forte, et qu'en son cœur, pour moi, toute flamme soit morte?
Il me le dit, ma sœur, et pour moi je le crois.
Ne soyez pas, ma sœur, d'une si bonne foi, et croyez quand il dit qu'il me quitte et vous aime, qu'il n'y songe pas bien, et se trompe lui-même.
Je ne sais, mais enfin, si c'est votre plaisir, il nous est bien aisé de nous en éclaircir. Je l'aperçois qui vient, et sur cette matière, il pourra nous donner une pleine lumière. Pour me tirer d'un doute où me jette ma sœur, entre elle et moi, clitandre, expliquez votre cœur. Découvrez-en le fond, et nous daignez apprendre qui de nous, à vos vœux, est en droit de prétendre.
Non, non, je ne veux point à votre passion imposer la rigueur d'une explication. Je ménage les gens et sais comment barrasse le contraignant effort de ses aveux en face.
Non, madame, mon cœur qui dissimule peu ne sent nulle contrainte à faire un libre aveu. Dans aucun embarras un tel pas ne me jette, et j'avouerai tout haut d'une âme franche et nette que les tendres liens où je suis arrêté, mon amour et mes vœux, sont tous de ce côté. Qu'à nulle émotion cet aveu ne vous porte, vous avez bien voulu les choses de la sorte. Vos attraits m'avaient pris, et mes tendres soupirs vous ont assez prouvé l'ardeur de mes désirs. Mon cœur vous consacrait une flamme immortelle, mais vos yeux n'ont pas cru leur conquête assez belle. J'ai souffert sous leurs joues sans mépris différent, ils régnaient sur mon âme en superbe tyran, et je me suis cherché, lassé de tant de peines, des vainqueurs plus humains et de moins rudes chaînes. Je les ai rencontrés, madame, dans ses yeux, et leurs traits à jamais me seront précieux. D'un regard pitoyable, ils ont séché mes larmes, et n'ont pas dédaigné le rebut de vos charmes. De si rares bontés m'ont si bien su toucher, qu'il n'est rien qui me puisse à mes fers arracher. Et j'ose maintenant vous conjurer, madame, de ne vouloir tenter nul effort sur ma flamme, de ne point essayer à rappeler un cœur résolu de mourir dans cette douce ardeur.
Et qui vous dit, monsieur, que l'on ait cette envie? et que de vous, enfin, si fort en ce souci ? Je vous trouve plaisant de vous le figurer et bien impertinent de me le déclarer.
Et doucement, ma sœur, où donc est la morale qui sait si bien régir la partie animale et retenir la bride aux efforts du courroux ?
Mais vous qui m'en parlez, où la pratiquez-vous ? De répondre à l'amour que l'on vous fait paraître sans le congé de ceux qui vous ont donné l'être ? Sachez que le devoir vous soumet à leur loi, qu'il ne vous est permis d'aimer que par leur choix, qu'ils ont sur votre cœur l'autorité suprême et qu'il est criminel d'en disposer vous-même.
Je rends grâce aux bontés que vous me faites voir, de m'enseigner si bien les choses du devoir. Mon cœur, sur vos leçons, veut régler sa conduite. Et pour vous faire voir, ma sœur, que j'en profite, Clitandre, prenez soin d'appuyer votre amour de l'agrément de ceux dont j'ai reçu le jour. Faites-vous sur mes vœux un pouvoir légitime et me donnez moyen de vous aimer sans crime.
J'y vais de tous mes soins travailler hautement et j'attendais de vous ce doux consentement.
Ha ! Vous triomphez, ma sœur, et faites une mine à vous imaginer que cela me chagrine.
Ha ! Moi, ma sœur, point du tout. Je sais que sur vos sens, les droits de la raison sont toujours tout-puissants, et que par les leçons qu'on prend dans la sagesse, vous êtes au-dessus d'une telle faiblesse. Loin de vous soupçonner d'aucun chagrin, je crois, qu'ici vous daignerez vous employer pour moi. Appuyez sa demande, et de votre suffrage, pressez l'heureux moment de notre mariage. Je vous en sollicite, et pour y travailler...
Votre petit esprit se mêle de railler. Et d'un cœur qu'on vous jette, on vous voit toute fière.
Tout jeter qu'est ce cœur, il ne vous déplaît guère. Et si vos yeux sur moi le pouvaient ramasser, il prendrait aisément le soin de se baisser.
À répondre à cela, je ne daigne descendre, et ce sont sourds discours qu'il ne faut pas entendre.
C'est fort bien fait à vous, et vous nous faites voir des modérations qu'on ne peut concevoir. Votre sincère aveu ne l'a pas peu surprise.
Elle mérite assez une telle franchise, et toutes les hauteurs de sa folle fierté sont dignes tout au moins de ma sincérité. Mais puisqu'il m'est permis, je vais à votre père, madame.
Le plus sûr est de gagner ma mère. Mon père est d'une humeur à consentir à tout, mais il met peu de poids aux choses qu'il résout. Il a reçu du ciel certaines bontés d'âme, qui le soumet d'abord à ce que veut sa femme. C'est elle qui gouverne, et d'un ton absolu. Elle dicte pour loi ce qu'elle a résolu. Je voudrais bien vous voir pour elle et pour ma tante une âme, je l'avoue, un peu plus complaisante. Un esprit qui, flattant les visions du leur, vous pût de leur estime attirer la chaleur.
Mon cœur n'a jamais pu, tant il est né sincère, même dans votre sœur, flatter leur caractère. Et les femmes docteurs ne sont point de mon goût. Je consens qu'une femme ait des clartés de tout. Mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. Et j'aime que souvent aux questions qu'on fait, elle sache ignorer les choses qu'elle sait. De son étude, enfin, je veux qu'elle se cache et qu'elle ait du savoir sans vouloir qu'on le sache. Sans citer les auteurs, sans dire de grands mots et clouer de l'esprit à ses moindres propos. Je respecte beaucoup, madame, votre mère, mais je ne puis du tout approuver sa chimère et me rendre l'écho des choses qu'elle dit aux encens qu'elle donne à son héros d'esprit. Son monsieur Trissotin me chagrine, m'assomme, et j'enrage de voir qu'elle estime un tel homme. Qu'elle nous mette au rang des grands et beaux esprits, un benêt dont partout on siffle les écrits, un pédant dont on voit la plume libérale d'officieux papier fournir toute la halle.
Ses écrits, ses discours, tout m'en semble ennuyeux. Et je me trouve assez votre goût et vos yeux. Mais comme sur ma mère est la grande puissance, vous devez vous forcer à quelque complaisance. Un amant fait sa cour où s'attache son cœur. Il veut de tout le monde y gagner la faveur. Et pour n'avoir personne à sa flamme contraire, jusqu'au chien du logis, il s'efforce de plaire.
Oui, vous avez raison, mais monsieur Trissotin m'inspire au fond de l'âme un dominant chagrin. Je ne puis consentir pour gagner ses suffrages à me déshonorer en prisant ses ouvrages. C'est par eux qu'à mes yeux il a d'abord paru, et je le connaissais avant que l'avoir vu. Je vis dans le fatras des écrits qu'il nous donne, ce qu'étalant tout lieu sa pédante personne, la constante hauteur de sa présomption, cette intrépidité de bonne opinion, cet indolent état de confiance extrême qui le rend en tout temps si content de soi-même, qui fait qu'à son mérite incessamment il rit, qu'il se sait si bon gré de tout ce qu'il écrit, et qu'il ne voudrait pas changer sa renommée contre tous les honneurs d'un général d'armée.
C'est avoir de bons yeux que de voir tout cela.
Jusque à sa figure encore la chose alla, et je vis par les vers qu'à la tête il nous jette, de quel air il fallait que fût fait le poète. Et j'en avais si bien deviné tous les traits, que rencontrant un homme un jour dans le palais, je gageai que c'était Trissotin en personne, et je vis qu'en effet la gageure était bonne.
Quel conte !
Non, je dis la chose comme elle est. Mais je vois votre tante. Agréez, s'il vous plaît, que mon cœur lui déclare ici notre mystère, et gagne sa faveur auprès de votre mère. Souffrez pour vous parler, madame, qu'un amant prenne l'occasion de cet heureux moment et se découvre à vous de la sincère flamme.
Ah, tout beau! Gardez-vous de m'ouvrir trop votre âme. Si je vous ai su mettre au rang de mes amants, contentez-vous des yeux pour vos seuls truchements, et ne m'expliquez point par un autre langage des désirs qui, chez moi, passent pour un outrage. Aimez-moi, soupirez, brûlez pour mes appas, mais qu'il me soit permis de ne le savoir pas. Je puis fermer les yeux sur vos flammes secrètes, tant que vous vous tiendrez aux muets interprètes. Mais si la bouche vient à s'en vouloir mêler, pour jamais de ma vue, il vous faut exiler.
Des projets de mon cœur ne prenez point d'alarme. Henriette, madame, est l'objet qui me charme. Et je viens ardemment conjurer vos bontés de seconder l'amour que j'ai pour ces beautés.
Ah, certes, le détour est d'esprit, je l'avoue. Ce subtil faux fuyant mérite qu'on le loue. Et dans tous les romans où j'ai jeté les yeux, je n'ai rien rencontré de plus ingénieux.
Ceci n'est point du tout un trait d'esprit, madame, mais c'est un pur aveu de ce que j'ai dans l'âme. Les cieux, par les liens d'une immuable ardeur, aux beautés d'Henriette ont attaché mon cœur. Henriette me tient sous son aimable empire, et l'hymen d'Henriette est le bien où j'aspire. Vous y pouvez beaucoup, et tout ce que je veux, c'est que vous y daigniez favoriser mes vœux.
Je vois où doucement veut aller la demande, et je sais sous ce nom ce qu'il faut que j'entende. La figure est adroite, et pour n'en point sortir, aux choses que mon cœur m'offre à vous repartir, je dirai qu'Henriette à l'hymen est rebelle, et que, sans rien prétendre, il faut brûler pour elle.
Eh, madame, à quoi bon un pareil embarras, et pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas ?
Mon Dieu, point de façon ! Cessez de vous défendre de ce que vos regards m'ont souvent fait entendre. Il suffit que l'on ait contente du détour dont s'est adroitement avisé votre amour, et que, sous la figure où le respect l'engage, on veut bien se résoudre à souffrir son hommage, pourvu que ces transports, par l'honneur éclairé, n'offrent à mes hôtels que des vœux épurés.
Mais...
Adieu, pour ce coup, ceci doit vous suffire, et je vous ai plus dit que je ne voulais dire.
Mais votre erreur...
Laissez, je rougis maintenant, et ma pudeur se fait un effort surprenant.
Je veux être pendu si je vous aime, et sage...
Non, non, je ne veux rien entendre davantage.
Diantre soit de la folle avec ses visions, a-t-on jamais rien vu d'égal à ses préventions ? Allons commettre un autre soin que l'on me donne, et prenons le secours d'une sage personne.